Avec la construction du nouvel État ouest-allemand, la République fédérale d'Allemagne, en 1949, on introduit un principe, le principe de la démocratie militante, de la démocratie défensive, qu'on appelle la Wehrhaftdemokratie, dans l'appareil constitutionnel pour éviter à la République fédérale le sort de la République de Weimar, c'est-à-dire l'affaiblissement, voire l'épuisement, l'exténuation de l'État par la sape systématique de ses institutions, par les extrêmes, qu'elles soient de droite ou de gauche. Et en République fédérale, l'article 21 de la loi fondamentale, la Grundgesetz, et les lois qui en dérivent prévoient l'interdiction de tout parti qui, dans son organisation, sa propagande ou son idéologie, imiterait le NSDAP historique, à savoir le Parti national-socialiste d'Hitler. C'est en vertu de cet article qu'est jugé anticonstitutionnel et interdit le Parti socialiste de l'Empire, la Sozialistische Reichspartei, en 1952. Un parti qui, effectivement, se dit explicitement dans la tradition du national-socialisme historique, avec des continuités personnelles et idéologiques évidentes. Et cette interdiction survient au début des années 50, au moment où le SRP commence à enregistrer de très bons scores électoraux, à l'échelle régionale. Et cette interdiction provoque une onde de choc dans le camp nationaliste d'après-guerre, parce que ce camp nationaliste comprend la démocratie militante est efficace et que, dans une certaine mesure, la République de Bonn, la République fédérale de Bonn, n'est pas celle de Weimar. Et donc, depuis, les partis d'extrême droite jouent la carte du légalisme, c'est-à-dire qui se prêtent au jeu de la démocratie parlementaire, qui polissent leur image en lissant leur propagande, tout en poursuivant, bien évidemment, des desseins antidémocratiques. Et cela vaut particulièrement pour le Parti national-démocrate d'Allemagne, la Nationaldemokratische Partei Deutschlands, auquel j'ai consacré ma thèse, et qui est fondée donc en 1964 par d'anciens nazis. Et derrière le paravent légaliste et démocratique, les cadres du parti entretiennent clairement la nostalgie nazie des militants. Leur but inavoué est de réinstaurer, par le biais d'une national-démocratie au contour assez flou, un régime autoritaire sur le territoire allemand. Depuis la réunification allemande en 1990, le NPD s'est fortement radicalisé. Il se dit aujourd'hui en opposition fondamentale à la République fédérale, c'est-à-dire qu'il est anti-système et qu'il cultive un néonazisme décomplexé. Sa ligne est « völkisch », ce qui signifie qu'elle défend l'idée d'une communauté allemande définie par la biologie, le sang et donc la race. En 2001, le gouvernement fédéral, à l'instigation du chancelier Gerhard Schröder du SPD, initie une procédure d'interdiction auprès de la Cour constitutionnelle fédérale, le Bundesverfassungsgericht, une procédure qui n'aboutit pas en raison de la présence d'espions infiltrés dans le bureau de la politique, du bureau politique du NPD. Et les juges ne peuvent donc pas déterminer le rôle exact joué par ces informateurs et espions dans la radicalisation du parti. Et donc, en 2013, une seconde procédure d'interdiction est lancée par le Bundesrat. Cette fois, c'est le Conseil fédéral représentant les États-régions d'Allemagne. Et en janvier 2017, les juges de la Cour constitutionnelle fédérale reconnaissent cette fois le caractère anticonstitutionnel, le caractère néo-nazi du NPD, mais ne l'interdisent pas parce qu'ils considèrent que le parti est inoffensif sur le plan électoral et politique. Et à mon avis, c'est une erreur fondamentale, mais c'est une autre question, parce que le potentiel militant du NPD est certes médiocre, parce que le NPD compte environ 4000 membres, c'est le noyau dur, très radicalisé de ce parti, et le potentiel électoral est nul, c'est-à-dire que lors des élections fédérales de l'année dernière, en 2017, le parti a atteint 0,4%, ce qui est rien. Le NPD ne compte actuellement aucun député, ni au Bundestag, ni dans aucun parlement régional. Il compte un député, Udo Vogt, qui est un ancien chef du parti, au sein du Parlement européen. Le fait est que le NPD a été évincé par une autre formation d'extrême droite, qui est plus récente, qui s'appelle l'Alternative für Deutschland, dont vous avez sans doute entendu parler, l'Alternative pour l'Allemagne, aux apparences plus modérées, mais à la propagande tout aussi radicale et virulente et au potentiel électoral autrement plus important. L'AfD est représentée au Bundestag. C'est une première historique pour un parti d'extrême droite d'être représenté au Parlement fédéral d'Allemagne. Et le parti siégera bientôt dans tous les parlements régionaux. Il y a bientôt des élections régionales en Bavière notamment et en Hesse, et il va faire son entrée en Bavière et en Hesse, sans doute. Donc le potentiel électoral est énorme. En termes de vote, quand vous regardez, ce sont des sondages qui ont été publiés récemment, le 1er octobre, l'AFD obtient un score de 18,5% des voix, ce qui est énorme, c'est-à-dire qu'il est juste derrière, il talonne quasiment les chrétiens démocrates, la CDU-CSU, qui est à 26%. Donc c'est le deuxième parti en termes de vote actuellement. Et en Allemagne de l'Est, dans les nouveaux Länder, il atteint la première place. C'est le premier parti en Allemagne de l'Est actuellement, avec 25% d'adhésion en Allemagne de l'Est. Donc le NPD, certes, a été évincé. Cependant, force est de constater qu'il a, depuis des décennies, préparé le terrain, notamment dans les régions de l'Est, par un minutieux travail d'enracinement local, dans le cadre de sa propre stratégie Aufbau Ost, donc la reconstruction de l'Est, depuis 1990. Donc il y investit de gros efforts de propagande, surtout en Allemagne de l'Est. Il a massivement investi l'espace public, par des manifestations par exemple, mais aussi par la mise en place de services d'aide aux citoyens, par l'engagement bénévole dans des associations, par l'organisation de loisirs pour les familles, surtout dans les territoires déshérités. Et l'engagement local de membres de partis est une manière de se rendre indispensable, de faire de la politique sans en avoir l'air, et donc de diffuser des idées sans matraquage idéologique. Cela permet de normaliser l'extrême droite dans certains territoires, et donc l'AFD récolte aujourd'hui les fruits de ce noyautage systématique de la société par le NPD. Donc reste cependant que la menace d'interdiction pèse comme l'épée de Damoclès sur les partis et les organisations d'extrême droite. Elle limite leur actionnisme, les canalise, mais permet aussi aux extrémistes de se poser en pseudo-victime d'un système juridique répressif. En dehors des partis, de très nombreuses organisations extrémistes ont été interdites depuis les années 60 en raison de leur proximité idéologique avec le NSDAP historique. Donc vous avez là la liste, il y en a quand même un certain nombre. Je ne vais pas toutes les mentionner. Juste dire qu'il est beaucoup plus facile d'interdire des groupuscules néonazis, des organisations néonazies, parce qu'elles sont interdites par les ministères fédéraux et régionaux de l'intérieur et non pas par la Cour constitutionnelle fédérale. Donc le processus est plus rapide. Sinon, du point de vue de la loi, toute propagande néo-nazie est proscrite dans la sphère publique. Il est strictement interdit, selon les paragraphes 86 et 86A du Code pénal, du Strafgesetzbuch, de reprendre et d'afficher publiquement la propagande, les symboles, les codes, les signes, les expressions, les noms d'organisation ou la terminologie du Troisième Reich. Donc, parmi les expressions illicites, vous trouvez par exemple « Meine Ehre heißt Treue »,« Ma fidélité » et mon honneur, c'est un slogan des SS de la division Totenkopf, qui comprenait notamment des gardes de camps d'extermination, particulièrement connus pour leur fanatisme et leur brutalité. Il y a aussi Alles für Deutschland, donc tout pour l'Allemagne, qui là était un slogan de la SA ou des SA, qui étaient les sections d'assaut des organisations paramilitaires particulièrement importantes pour la montée du nazisme dans les années 20. Parmi les symboles illicites, donc vous avez le drapeau nazi, bien évidemment, frappé de la croix gammée, qui était, je le rappelle, le drapeau officiel de l'Allemagne entre 1933 et 1945. Donc là, ce qui est important, c'est le code couleur. Donc c'est le noir, le blanc et le rouge, le noir, le rouge et le blanc, on va dire ça dans ce sens-là, qui sont les couleurs du Reich, du premier, deuxième et troisième Reich, par rapport aux couleurs noir, rouge, or, qui sont les couleurs de la République. Et donc, l'extrême droite actuelle utilise souvent ce code couleur, noir, rouge, blanc, donc comme signe de ralliement à l'extrême droite. Un autre symbole, c'est le crochet de loup, la Wolfsangel, appelé crampon aussi, qui là fait l'apologie de la puissance militaire et de la guerre de conquête, qui rappelle donc le national-socialisme et qui a donc été interdit aussi. Vous avez la croix celtique, la Skeltenkreuz, qui était l'emblème de l'organisation Volkssozialistische Bewegung Deutschlandspartei der Arbeit, donc c'est un groupuscule néo-nazi qui a été interdit en 1982, et comme c'était le symbole de ce groupement néo-nazi, le symbole est interdit également, donc maintenant. Il était utilisé à l'époque comme signe de la supériorité de la race blanche et nordique. Et dernièrement, mais il y en a beaucoup d'autres bien évidemment, c'est la Schwarze Sonne, le soleil noir, qui représente trois croix gammées superposées, et qui rappelle donc la symbolique ésotérique des SS. Donc, comme je le disais, ce ne sont que des exemples, il y en a énormément plus. Donc, les activistes d'extrême droite recourent parfois à ces codes et symboles en signe de ralliement à l'extrême droite. Ce sont des signes d'identification utilisés bien au-delà des frontières allemandes, en Europe et outre-Atlantique. Toutefois, pour contourner l'interdit et éviter les condamnations par les juges, les néo-nazis détournent aussi les symboles illicites ou inventent de nouveaux codes à base de chiffres, de lettres et d'abréviations. Et donc là, Vous avez quelques exemples. Par exemple, donc, le jeu des chiffres et des lettres, parce que c'est le cas. Vous avez le 18, c'est la première et la huitième lettre de l'alphabet. 18, donc A et H, donc Adolf Hitler, par exemple. Vous avez le 28, c'est le même principe, c'est le B et le H pour Blood and Honor. Donc le sang et l'honneur, qui est un réseau international de néo-nazis international, donc particulièrement fanatique et violent. Vous avez le 88, donc 2H pour Heil Hitler. Vous avez le 444 pour 3 fois le D, Deutschland den Deutschen, donc l'Allemagne aux Allemands. Vous avez effectivement aussi les 14 words, donc pour l'expression composée de 14 mots, « We must secure the existence of our people and the future for white children », qui est donc une expression de l'extrême droite américaine. Le W et le P pour White Power, qui est le slogan du Ku Klux Klan, et VOTAN, donc l'acronyme pour Will of the Aryan Nation, la volonté de la nation aryenne, avec bien sûr une référence à VOTAN, qui est une divinité de la mythologie germano-nordique. Donc ce sont des codes qui sont utilisés par la nébuleuse d'extrême droite internationale, et donc vous avez là des phénomènes de transfert et de circulation de la symbolique. Donc ces signes-là sont imprimés sur des t-shirts, des casquettes, des CD, des revues, sont représentés sur Internet dans les réseaux sociaux et s'adressent à un public d'initiés. Ce sont des signes de reconnaissance qui marquent l'appartenance à une communauté idéologique, des références qui sont évidentes, mais elles sont implicites et donc elles ne tombent pas sous le coup de la loi. Donc vous avez d'autres moyens de détourner l'interdit, par exemple sur la photo de droite qui représente le salut nazi, mais le salut nazi est interdit, et donc on fait là le salut de la résistance avec trois doigts pour marquer le W de Widerstand, de résistance. Donc ça, c'est un signe qui a été inventé par Michael Kuhn, qui est un néo-nazi des années 70-80, par exemple. Vous avez des dates aussi qui sont symboliques, donc des dates auxquelles on va célébrer des fêtes, des événements, comme le 20 avril, Führerschaftsgeburtstag, comme on disait à l'époque, à savoir l'anniversaire d'Adolf Hitler. Vous avez le 9 novembre aussi, qui est une date importante dans l'histoire allemande. Donc ici, c'est en mémoire du putsch avorté d'Hitler en 1923, ou en mémoire de la nuit de cristal, sûrement pas de la chute du mur. Vous avez aussi des marques de détournées, de vêtements, donc, que vous connaissez sans doute, Lonsdale, par exemple, donc je vous ai montré la photo là en bas, donc qui se porte dans l'extrême droite, qui se porte comme ça avec un petit, un petit pull, pour cacher le début et la fin du mot et ne montrer que le NSDA pour NSDAP, bien évidemment, donc le parti nazi. Vous avez d'autres marques comme New Balance, c'est des chaussures, je ne sais pas si vous connaissez, le logo, c'est un N, le N pour nationaliste ou nazi, donc qui est très affectionné par les néo-nazis. Adidas aussi, Adidas parce que fondé par Adolf Dassler, Adidas, Adolf Hitler, Adolf Dassler, on fait la confusion des deux et donc on récupère Adidas. Et Torsteiner, qui est une marque de vêtements purement d'extrême droite, là pour le coup. Et pour l'anecdote, en 2013, les députés du NPD de Saxe à Dresde avaient fait irruption dans la salle plénière lors d'un débat parlementaire, tous habillés en Torsteiner, comme un uniforme en fait. Et le président de séance les avait mis à la porte parce qu'il est interdit justement de montrer comme ça l'appartenance au milieu d'extrême droite. Donc on utilise ces vêtements, ces marques, donc pour marquer l'appartenance à une même Gesinnungsgemeinschaft, à une même communauté d'esprit et d'idées. Afficher ces symboles et signes fait donc partie d'une pratique de mobilisation des partisans, qui c'est un moyen de cimenter cette communauté d'appartenance et de pensée, et donc de diffuser plus largement des contenus idéologiques. Et donc, si justement on regarde les contenus idéologiques, on s'aperçoit qu'ils ne varient que très peu dans le temps. Depuis les années 1980, ce sont les mêmes contenus qui reviennent régulièrement de manière assez cyclique. Ce qui change, en revanche, c'est l'emballage, le design, comme on dit, et la stratégie de communication autour de ces contenus, ainsi que l'ampleur, bien sûr, l'envergure de la propagande. La révolution digitale que nous connaissons a permis une forte diversification des relais et des supports de diffusion, avec les réseaux sociaux notamment, qui viennent donc s'ajouter aux modes de militantisme et de diffusion traditionnels, à savoir journaux, revues, tracts, programmes, manifestations, etc. Et donc ces nouveaux relais permettent plus aisément de véhiculer leur campagne idéologique et d'impacter le débat public. Comment font-ils pour infiltrer cette société ? Donc, quelques exemples. Donc, un des principes phares de la propagande d'extrême droite est de tenter de s'arrimer aux controverses et aux sujets de société débattus dans l'espace public et relayés par les médias. et donc de récupérer une cause, qu'elle soit environnementale, qu'elle soit médicale, féministe, etc., et de l'instrumentaliser à des fins idéologiques. L'idée étant de s'insinuer ainsi dans le cœur de la société et d'y diffuser sa propagande. Donc l'exemple de l'environnement, par exemple. L'environnement est une cause régulièrement récupérée depuis les années 1980 par l'extrême droite. Nous avons ici deux exemples types, donc un graphisme simple, pas très élaboré, un message qui est asséné en grosses lettres avec un slogan très clair, un impératif, enjoignant les hommes politiques à interdire le glyphosate. On a une dramatisation extrême du message avec le panneau « danger de mort » qui souligne l'urgence. Et tout cela dans un contexte donc de médiatisation et de controverse autour de l'utilisation de cet herbicide, le glyphosate, qui est polluant et qui est cancérigène. Donc on a ici une forme de verdissage de la marque du NPD qui récupère donc cette cause. Donc le but est de se doter d'une image écologique et d'obtenir l'adhésion des écologistes ou des personnes qui sont sensibles à la cause environnementale et aussi de faire concurrence au parti des Verts, le Bündnis 90 Die Grünen, par exemple. C'est la même chose pour Massentierhaltung. Donc c'est contre l'élevage en batterie, c'est le même procédé, même simplisme, la même dramatisation du message contre l'élevage intensif et en batterie. Donc on a ici récupéré la cause du bien-être animal dans un contexte de débat sur les droits des animaux. Et quand on regarde le code couleur, on voit qu'il y a un fond vert, donc qui marque l'ambition écologiste, sans mise en avant de contenu proprement extrémiste. Et donc là, ce sont des autocollants que l'on est censé coller un peu partout dans l'espace public, sur des lampadaires, des feux de circulation, des panneaux de signalisation, etc. Donc l'idée est d'atteindre un large public et faire de la politique consensuelle. Donc ça aussi dans l'idée de normaliser l'extrême droite par des sujets auxquels adhère plus ou moins tout le monde. Donc c'est la différence avec ce type de publication, c'est le magazine Umwelt und Aktiv qui imite des magazines écolos, mais La tonalité est alarmiste, on parle d'agonie, on parle de cruauté, donc des termes qui marquent l'urgence, l'injustice, les dysfonctionnements de la société qui sont donc ici dénoncés. Ici, l'ambition nationaliste ressort très clairement parce qu'il y a un côté un peu ésotérique, c'est-à-dire que on parle de l'idée de fusion de l'homme avec la nature et les éléments cosmiques à travers la question notamment de la naturopathie et les questions des vertus médicales du fenouil, par exemple. Donc la pensée ici est völkisch. Il est question de forêts et de peuples éternels qui rappellent un peu la mystique du sang et de la terre, Blut und Boden, mystique des nazis. Et il y a aussi une confusion entre protection de la nature et protection de la patrie et de l'identité, et qui débouche sur un discours raciste. Il est question de l'immigration déchire le pays. Donc c'est un exemple de détournement et de déformation de la cause environnementale. Les éditeurs adjoignent leur propre contenu néo-nazi à cette cause environnementale, donc le racisme et le nationalisme. Cette publication-là est la publication officielle de l'association Midcat e.V., dont les membres sont des national-démocrates, ce sont des membres du parti du NPD, mais le magazine n'est pas une publication du NPD. Et donc ça, c'est une stratégie aussi de diversification des supports. Et on diversifie les organisations, on diversifie les structures pour donner une impression de masse, pour donner une impression de dynamique, alors que ce sont toujours les mêmes acteurs, les mêmes personnes qui créent ces différentes structures. Un autre thème qui est très mobilisateur, c'est la question des réfugiés. Thème très mobilisateur, surtout depuis 2015, c'est ce qu'on a appelé la crise des migrants en Allemagne et en Europe. Donc ici, on a un peu le même principe, le même procédé. Donc le message est clair. L'injonction, la menace est ici exprimée visuellement par le panneau « Stop ». Et puis l'usage de la métaphore « Asylflut ». Donc on a ici l'idée de raz-de-marée, de flots, de masse qui s'abattent sur l'Allemagne. Donc un procédé d'exagération, de dramatisation, de démotionnalisation à outrance. Ce sont d'ailleurs des termes qui ont été popularisés, repris par les médias. Donc une stratégie qui a marché ici. Un terme, Asylflut, qui est utilisé pour diffamer les réfugiés en sous-entendant que ce sont de faux demandeurs d'asile qui viendraient parasiter le système social allemand. Dans la même veine également, et en lien avec l'arrivée des réfugiés et des migrants, la dénonciation de l'islam, qui est récurrente dans l'extrême droite, on fait souvent l'amalgame entre l'islam et le terrorisme, amalgame qui sert un discours anti-musulman, islamophobe et raciste. Donc on voit un homme cagoulé, en tenue de kamikaze, avec une ceinture d'explosifs, un Coran à la main, le tout barré d'un panneau d'interdiction. Et donc le NPD ici reprend le thème du terrorisme islamiste qui sévit en Europe et joue avec l'imaginaire autour du terrorisme. Il exploite une peur existentielle très concrète, à savoir la menace terroriste, qui ici est incarnée par l'homme musulman, qui serait une bombe à retardement. Donc la généralisation, qui dit « tout homme musulman est un homme potentiellement radicalisé », est un moyen assez efficace pour attiser la peur de l'autre, pour stigmatiser la religion musulmane. Et donc par ces images, on marque les esprits, donc des images qui viennent se surajouter à un discours ambiant déjà assez délétère. Et le NPD, ici, se pose en alternative, bien sûr, au parti établi, jugé trop laxiste. Autre stratégie de communication autour du thème de l'islam, c'est de provoquer l'indignation en projetant des scénarios apocalyptiques. Donc on voit ici une femme blonde, de type arien, on imagine, qui serait forcée en 2035 à porter le niqab en raison de la prise de pouvoir en Allemagne par les islamistes. Donc cette image défend l'idée d'une islamisation poussée de la société allemande et qui rejoint un discours assez présent dans la culture populaire et dans une certaine littérature quand on pense par exemple à Soumission de Michel Houellebecq, qui reprend le même thème. Donc le NPD se pose ici en Cassandre, qui interpelle les Allemands et surtout les Allemandes, car il s'agit d'un tract diffusé par le Ring Nationaler Frauen, c'est le Cercle des Femmes Nationalistes, l'organisation de femmes du NPD, fondée en 2006. Donc la revendication qui est ici exprimée, c'est que les femmes prennent en main leur destin et se défendent contre une religion jugée misogyne et donc opprimante à l'égard des femmes. Et au milieu de ce dépliant, un formulaire de contact rend possible le contact direct avec cette organisation de femmes et de militer directement. Donc c'est une stratégie discursive récurrente. C'est-à-dire que l'extrême droite va instrumentaliser un discours pseudo-féministe, à savoir le droit des femmes de disposer de leur corps, un discours qui défend l'intégrité, la liberté, l'égalité de la femme contre les musulmans, contre les étrangers, qui voudraient l'en déposséder. Il y a une autre image. Unsere Frauen sind kein Freiwild. Nos femmes ne sont pas du gibier. Et là, on voit une femme blonde. Au regard sévère, elles sont d'ailleurs toujours blondes, c'est évident, au regard sévère qui fait un mouvement de refus. Et donc cette image-là s'inscrit dans la continuité de la campagne anti-migrant de l'extrême droite lancée suite aux agressions, viols et violences perpétrées par des demandeurs d'asile à l'encontre de femmes pendant la nuit de Saint-Sylvestre à Cologne en 2016. Ces événements avaient suscité une très forte émotion, une très forte indignation qui avait d'ailleurs fait basculer le climat général à l'époque et avait accru les animosités à l'égard des réfugiés dans la population allemande. Donc ici, le message est adressé aux femmes sur un ton très paternaliste parce que nos femmes insinue que la femme blanche appartient à l'homme blanc. Et donc c'est une idée un peu contraire à l'autonomie et à l'autodétermination des femmes. Sur l'image d'à côté, en bas à droite, donc on voit quelqu'un qui, dans la main gauche, tient cette carte postale et dans la main droite, tient une bombe lacrymogène. Donc c'est une manière ici de dénoncer l'abandon par les autorités, de dénoncer le laxisme, voire la collusion de ces autorités avec les violeurs. Les femmes ne pourraient plus compter sur l'État, mais seraient obligées donc de se défendre elles-mêmes. Et le NPD n'a été qu'un vecteur parmi d'autres de cette campagne de propagande. C'est un exemple donc qui montre là aussi la circulation de la propagande avec des effets de reprise et d'amplification. Cette campagne a été reprise et diffusée par les mouvements identitaires européens et par divers groupuscules de femmes créés à l'occasion, par exemple Töchter Europas ou 120 Dezibel. Et donc, pour vous montrer 120 Dezibel, c'est un site internet assez jeune, assez dynamique, épuré, qui présente une femme blanche et rousse, au regard sévère, encore une, femme de type caucasien, bien évidemment, flanquée donc du titre de la campagne hashtag 120 Dezibel, le cri véritable, enjoignant les femmes allemandes à témoigner de leur expérience des violences commises par les étrangers. Donc, on a ici un discours victimaire qui met en valeur le témoignage des femmes blanches, et c'est un procédé pseudo-féministe qui apparaît dans le contexte de controverse autour de l'affaire Weinstein. Ça fait un an d'ailleurs que l'affaire a été lancée et le hashtag MeToo également. Donc ça s'inscrit dans un contexte de surmédiatisation des violences faites aux femmes, des viols, des abus et du harcèlement. Il s'insère aussi dans le contexte de campagne français sur Twitter, le hashtag Balance ton porc, qui appelait à la dénonciation d'hommes violents, harceleurs, violeurs. Ici, à part ça, Der wahre Schrei, donc le vrai cri, fait aussi référence à la campagne féministe allemande hashtag Aufschrei, lancé en Allemagne en 2013 sur Twitter contre le sexisme au quotidien, au travail, en politique. Donc il y a là tout un réseau de références qui est mobilisé. Donc on reprend la terminologie féministe, on récupère l'émoi suscité dans la société dans le cadre de ce débat et on le retourne contre les étrangers, immigrés, réfugiés, qui représenteraient donc une menace pour la culture allemande et pour l'émancipation des femmes. 120 décibels correspondent au volume sonore d'une alarme de poche que l'on peut activer en cas de danger pour appeler à l'aide. Donc on a là, ici, à la fois un discours victimaire et un discours d'empowerment des femmes, parce qu'on nous présente une féminité combative qui se défend contre l'adversité. Et en même temps, on a un discours extrêmement raciste, parce qu'on racialise le sexisme, c'est-à-dire qu'on stipule que la violence provient exclusivement des étrangers. On occulte de ce fait la violence qui provient de l'homme blanc. Par exemple, dans le cadre des violences conjugales, les statistiques montrent qu'en Allemagne, tous les jours, une femme meurt sous les coups de son compagnon. Et ce sont souvent des hommes blancs. Donc le pseudo-féminisme n'est qu'un prétexte pour faire passer un message raciste. Le NPD, comme les autres courants d'extrême droite, ne défendent pas de point de vue féministe, ne défendent pas l'émancipation, ni l'indépendance, ni la liberté de la femme.
Et pour compléter également, il faut savoir que les victimes d'agressions sexuelles par des migrants, des demandeurs d'asile, sont en majorité d'autres migrants et demandeurs d'asile. C'est-à-dire que, de facto, il y a effectivement des agressions sexuelles et qu'elles touchent énormément aussi les femmes dans les foyers. Mais ça, par contre, le NPD n'en a cure, puisque ce sont nos femmes qui ne sont pas du gibier. Les autres, c'est pas notre problème. Donc ça marche vraiment dans les deux sens, hein, cette racialisation et cette frontière établie entre les victimes et les criminels.
Et donc, juste pour finir, voilà, donc pour montrer que le NPD n'est pas féministe, ne l'a jamais été, il suffit de regarder le programme du NPD de 2010 qui s'appelle Arbeit, Familie, Vaterland. Arbeit, le travail, famille, Vaterland, la patrie, donc imprimé sur fond rouge et accompagné d'une image pour chaque élément. Donc le travail, on voit la photo d'un ouvrier au visage noirci par la suie. Pour la famille, une femme blonde embrassant sur le front un bébé dans un geste maternel. Et pour la patrie, les couleurs du drapeau allemand, noir, rouge, or. D'ailleurs, c'est étonnant que ce soit or, mais c'est comme ça. Donc ça fait partie de la stratégie légaliste du NPD. Donc la femme est clairement ici reléguée à la sphère familiale, à la maternité et l'éducation des enfants. Ça reprend le slogan pétainiste « Travail, famille, patrie » et de la Révolution nationale allemande. Donc le NPD reste attaché à l'ordre des sexes traditionnels. Il refuse le travail des femmes, la contraception et l'avortement. Il refuse l'idée d'une autonomie féminine. Donc la femme est entièrement soumise à l'impératif racial et biologique de la Volksgemeinschaft, donc cette communauté du peuple fondée sur le sang et la biologie. Donc il y a un hiatus entre l'idéologie réactionnaire et antimoderniste et une propagande pseudo-moderne, pseudo-progressiste. Donc la propagande est un vernis, elle est toujours là pour faire illusion et pour manipuler. Et je te passe la parole.
Merci. Et donc, voilà pour les thèmes du NPD, mais qui sont ensuite communs à de très nombreuses mouvances. Alors, avec plus ou moins, justement, d'agressivité, la particularité du NPD étant d'essayer de se fondre dans la masse et de créer du consensus en récupérant donc ces thèmes. On va le voir avec un exemple particulier. Alors, la nouveauté, évidemment, dans la circulation des messages et dans la diffusion de la propagande, c'est le web 2.0, le web participatif et notamment donc les médias sociaux. Exemple de récupération du thème dont on n'a pas parlé, mais voilà, ça, il arrive, du thème donc des abus sexuels sur les enfants. Évidemment, qui peut être du côté des pédophiles? Comment ne pas s'indigner face à ce crime absolu qui est celui d'un assassinat de l'innocence? Bien. Mais ici, contre quoi est-ce qu'on s'indigne? En fait, là, vous avez une stratégie développée par le NPD. C'est une campagne, l'Allemagne contre les abus sexuels sur enfants, avec donc une page Internet qui rassemble, alors là, à l'époque, on était donc, c'était au mois d'août, 33 000 personnes environ sur la page. Nulle part, vous ne voyez en gros le logo du NPD, il n'est annoncé, ça n'est pas relié ni à un parti politique, ni à un projet politique. politique. On est purement dans une logique d'indignation et d'adhésion à un mouvement contre. Alors, évidemment, les réseaux sociaux numériques fonctionnent de façon réactive et se prêtent tout particulièrement à cette mobilisation des affects. Le clic est réactif, c'est épidermique. On partage même les images ou les articles avant de les lire. Et donc, on joue sur cet effet de réaction épidermique. Vous avez donc le martyr de Susanna, 14 ans, a duré toute une nuit. Évidemment, son tensionnaire à un type du sud. Le monsieur qui est en dessous, donc ça, ce sont les premières images qui s'affichent, qui sont épinglées, donc qui s'affichent quelle que soit l'actualité de la page. Donc ce que vous voyez en premier, c'est ça, ces photos. Celui qui est en dessous est visiblement donc un père éploré et qui dit « Puis-je vous demander une chose, si c'était votre enfant, continueriez-vous à vous taire ?» Et celui d'à côté, on laisse les criminels courir, mais par contre, tous ceux qui sont en infraction de stationnement, on les poursuit impitoyablement. Alors à quoi ça sert, en fait ? Parce qu'on dit, évidemment, on ne peut pas être pour les pédophiles, on ne peut pas ne pas adhérer. Donc ça va servir à émotionnaliser le débat, à provoquer des clics « j'aime », à diffuser. Si possible, à amener des gens à aller un petit peu plus loin, les pages connexes que vous voyez à droite, là, par contre, sont des pages politiques, des pages du NPD, des pages de l'AFD, des pages du Ring National of Frauen, du Cercle des Femmes Nationales, etc. Donc, dans les liens connexes, on tombe tout de suite dans la politique. Par contre, la page principale, non. Et quelle est cette protestation ? On proteste contre la faiblesse de l'État, le système qui protège les criminels et non les victimes. On retrouve la dialectique populiste, le peuple contre les élites. Les victimes sont des enfants, l'incarnation de l'innocence et de la pureté. De là à parler de pureté du peuple et de la race, il n'y a qu'un pas. Et ce pas-là, il est déjà franchi. Dans le vocabulaire, on parle de Kinderschänder, c'est-à-dire de ceux qui dénaturent, en fait. Le fait, en fait, finalement, la victime a été atteinte dans son intégrité, dans sa pureté. Donc c'est vraiment ceux qui souillent les enfants. Donc il y a vraiment aussi une inversion. L'enfant, en fait, la victime, on s'en fiche. Ce qui compte, c'est de condamner l'acte et surtout, en fait, de réclamer la peine de mort. Todesstrafe für Kinderschänder. Donc peine de mort pour les pédophiles. Or, la peine de mort est interdite par la Constitution en Allemagne, tout comme en France, la peine de mort est interdite. Et donc, développer ce discours, appeler à instaurer la peine de mort, c'est déjà un marqueur anti-système. C'est une façon de miner la confiance en l'État, de nourrir du ressentiment face à sa prétendue impuissance et de remettre en cause le cadre juridique et la légitimité du système, puisqu'il est incapable d'assurer la sécurité des femmes et des enfants, des faibles. Donc les pages qui sont construites de cette façon, tout comme les campagnes 120 décibels et autres, ont en fait deux effets. Un effet publicitaire, la porte d'entrée, si on peut arriver à récupérer quelques personnes qui vont aller voir nos sites et être sensibilisées à nos thématiques, c'est très bien. Mais ça reste marginal. En fait, ce qui est plus systématique et plus dangereux parce que c'est insidieux, c'est qu'il propage une idéologie qui est plus ou moins sous-jacente en imposant un vocabulaire et un cadre de pensée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va parler de Kinderschänder et on va reprendre aussi le Asyl, Flut, etc. Donc on impose un vocabulaire aux médias et à la façon dont les gens s'emparent et parlent de ce thème-là. Il y a également l'usage des trolls sur les forums de discussion qui vont injecter systématiquement des éléments d'argumentation dans cette optique-là et qui donc créent en fait les conditions d'acceptation du discours d'extrême droite. La rhétorique va finir par laisser des traces. Autre stratégie d'infiltration pour s'insinuer au cœur de la société, donc là, l'exemple, la première, c'est l'indignation qu'on a vue avec les campagnes pseudo-féministes et ici contre la pédophilie. La culture jeune. Alors, la culture jeune, c'est notamment la stratégie du mouvement identitaire Allemagne, Identité Rebewegung Deutschland, qui utilise tous les codes de la culture jeune et qui se crée une image cool de communautés solidaires, agissantes, énergiques et rebelles. Alors, le terme « résistance », hein, est un des mots-clés de leur discours. Donc, c'est un mouvement jeune pour les jeunes. Il a été fondé en 2012. Il est en pleine expansion. Il comptait 300 membres en 2016, 500 en 2017. Et il se manifeste par des actions coup de poing, de flash mob, des choses qui vont marquer l'opinion et qui vont être diffusées dans les médias parce qu'on va mettre des banderoles un petit peu partout, on va bloquer des entrées de certains sites, on fait du buzz. Et puis, ils sont très actifs sur les réseaux sociaux. Ils récupèrent, par exemple, des hashtags. Donc, on avait vu la récupération des hashtags sur les campagnes MeToo et Balance ton port. Là, c'est Bart Tréga. Alors, ça n'a absolument rien de politique. C'est du lifestyle. Hein. Donc, on publie des photos avec de beaux jeunes hommes qui portent la barbe. Des hipsters, hein, tout à fait. Et on va, comme ça, récupérer des gens, une audience... par le hashtag. Ça va apparaître automatiquement, alors qu'on ne cherche absolument pas quelque chose d'un contenu politique quelconque. Et puis, on va aussi attirer l'attention par des images aguicheuses. La jeune fille, donc, en bikini, qui pose avec son ballon de volley. Et ce petit post, hein, là, sur Instagram du mouvement identitaire. Nous vous souhaitons un bel été. Nous ne sommes pas toujours en tournée politique. Les excursions en groupe régulières font aussi partie intégrante de la vie d'activiste. Sous un beau soleil et par de chaudes températures, plus de 30 activistes de Souabe et de Suisse se sont rencontrés la semaine dernière à Constance pour un tournoi de volley-ball. Venez nous rejoindre, c'est sympa, on joue au volley et en plus il fait toujours beau quand les activistes, quand les identitaires organisent un événement.
Et on a de belles femmes.
Et on a de très belles femmes, évidemment. Et sur la photo, alors dans le commentaire, il n'y a absolument rien qui vous parle. Il n'y a pas de message politique, il y a juste on est une bande, une communauté, des amis, on est actifs et on n'est pas seulement des idéologues, on profite de la vie. On profite de la vie. Et la seule chose que vous voyez, c'est sur le ballon de volley, il y a un autocollant qui dit « Still not loving Antifa ». Donc c'est la seule petite note. Hein, non, j'aime toujours pas les Antifa. Donc voilà. L'Antifa étant le nouveau communiste à qui il faut casser la gueule dans la rue quand on le croise. Hein. Mais eux ne sont pas du tout violents. Donc la caractéristique du mouvement identitaire, c'est qu'ils se donnent une image d'activiste, mais absolument pas par l'agressivité dans la rue, comme certains groupes néo-nazis avaient coutume et ont toujours coutume de le faire. Donc on insiste sur le côté communauté, groupe, et un côté très lumineux par le logo aussi en jaune, hein, une image très dynamique et lumineuse. Alors que font-ils aussi? Ils instaurent des zones, ce qu'ils appellent des zones IB. Voilà, ce sont des événements de temps en temps. Et là, c'est encore par un temps radieux, je vous dis, il fait toujours beau quand ils organisent des événements, c'est par un temps radieux que les passants ont eu l'occasion de s'informer sur le mouvement identitaire et sur notre travail. Même sur ce pavé de gauche, s'il en est, nous avons créé une belle ambiance de droite avec la zone IB, des boissons fraîches et de la musique. Même quelques personnes de gauche et des opposants politiques n'ont pas voulu décliner cette offre et ont osé se lancer dans un échange, ce qui a donné lieu à des scènes et des discussions extrêmement intéressantes. Alors, normalement, les néo-nazis ne discutent pas avec les gens de gauche et les opposants. Ils leur cassent la figure. Voilà. Le mouvement identitaire, lui, se donne une image sympathique, ouverte et conquérante par la conviction. Par cet événement, nous sommes entrés dans l'espace public et nous avons créé en plein centre-ville un espace où notre mouvement a pu se présenter et la résistance patriotique s'exprimer. Nous sommes fidèles à nos opinions, pas seulement sur Internet, mais aussi dans la rue. Là, il y a un enjeu très fort pour les identitaires et pour tous les groupes. C'est de ne pas être simplement des activistes numériques, mais d'être présents IRL, in real life. On ne se contente pas d'être derrière notre clavier. On va au contact des gens, on est actif, on change les choses dans la vraie vie. Là, il y a une rhétorique aussi qui est importante. Donc, vous voyez ce groupe avec les au soleil, effectivement, avec les chaises longues. Ça va avec l'image du, du beach volley de tout à l'heure. Et ça débouche sur des choses un petit peu plus larges et déjà plus politiques, comme Europa Nostra, festival qui a eu lieu au mois d'août, à la fin du mois d'août dernier à Dresde. Et voilà, dans un post, hein, ils expliquent à quoi sert cet événement. Un événement public, hein, nous allons pénétrer un territoire nouveau. Donc il y a vraiment l'idée de se rendre présent, hein, d'avoir une visibilité dans l'espace public. Créer un format d'événement qui aille au-delà de la pure protestation et qui reflète au contraire la portée, l'activité créatrice et le potentiel visionnaire de l'ensemble de la résistance identitaire et patriotique. Donc, il se présente de façon positive. Le discours anti est présent, mais il est à l'arrière-plan par rapport à quelque chose qu'il veut proposer. Voilà. Nous nous sommes fixés pour objectif de ne pas seulement critiquer l'esprit 68art, mais aussi de construire une véritable alternative du côté patriotique. Et la prolifération aussi de chaînes YouTube et de vidéos disponibles, hein, sur cette plateforme correspond, hein, à une stratégie de diffusion auprès des jeunes qui consomment énormément de contenu sur YouTube et qui peuvent donc tomber assez facilement sur ce type de production. Là, il y avait sur cette page une vidéo sur les événements de Chemnitz et en quelques heures, elle a eu plusieurs milliers de vues. C'est là la propagation, c'est la fameuse viralité, hein, de certaines choses. Ça va très très vite. Et là, on assure une diffusion au-delà de l'audience des réels sympathisants, avec les mêmes effets que celui que j'ai évoqué tout à l'heure pour la page Facebook, c'est-à-dire diffuser quand même une rhétorique, un contenu, une vision et une interprétation des événements. Dernière stratégie de diffusion au niveau des médias, les magazines. Alors, on a évoqué le Umwelt und Aktiv, qui imite les magazines, ou en tout cas qui s'emparent, qui se présentent comme écolo et puis qui glissent à l'intérieur du sandwich écologiste, des tranches de nationalisme. Et là, on a un magazine vraiment lifestyle, hein, Werk Codex 2018. Alors, ce n'est pas vraiment du NPD, excusez-moi, mais ce sont toujours les mêmes, effectivement, mais ce n'est pas du tout labellisé NPD, c'est indépendant, hein, c'est produit de façon indépendante. Alors, c'est un superbe magazine sur papier glacé de plus de 100 pages, grand format. Bref, ça n'a rien à voir avec des flyers ou des petits fanzines et des productions plus ou moins légales. On peut le sortir dans l'avion, il n'y a aucun problème, c'est beau, c'est lisse, c'est brillant. Et à l'intérieur, il y a des thèmes sur l'art, la musique. C'est présenté de façon très design. Et il y a une vraie volonté de se rendre présentable. C'est le dernier né, hein, publication de sympathisants pour les sympathisants, qui met l'accent sur la modernité et le haut de gamme. Mais à l'intérieur, je vous rassure, hein, c'est toujours le même discours. Mais qui prend des formes qui s'appliquent à la mode, la façon de l'alimentation, la musique. Vraiment, ça couvre tout le spectre, hein, du mode de vie, avec des publications plus idéologiques également. Alors, il n'empêche que il y a quand même un début de régulation. C'est très nouveau, on en parle beaucoup. Hein, comment bloquer des pages à contenu terroriste? Comment essayer de faire en sorte que l'Internet reste un espace vivable et pas simplement le terrain de chasse de tous les extrémismes? En Allemagne, l'Office fédéral de la protection des mineurs surveille les activités extrémistes en ligne et multiplie les signalements auprès des plateformes pour leur demander de fermer, de supprimer certains contenus et de fermer certains profils. Pour des raisons d'image de marque, hein, maintenant, certaines plateformes commencent à réagir à ces injonctions de façon plus systématique, et notamment Facebook, qui, fin mai 2018, a supprimé le compte du mouvement identitaire allemand, ainsi que les comptes Instagram, puisque Instagram appartient à Facebook. Avec la justification suivante, les organisations ou personnes qui diffusent une haine organisée ne sont pas admises sur Facebook ni sur Instagram, selon les déclarations d'une porte-parole de la plateforme. Alors, ça correspond en français au délit d'incitation à la haine raciale et en Allemagne ce qu'on appelle Volksverhetzung. Donc, effectivement, ça tombe sous le coup de la loi, sauf que là, ce n'est pas le coup de la loi, ce sont les standards de la communauté Facebook. C'est selon les standards de la communauté Facebook que la plateforme a décidé, hein, en application de ces standards, de fermer certains profils. Les organisations donc animées par la haine sont exclues et toute association de 3 personnes ou plus organisée sous un nom ou un symbole et dont l'idéologie, les déclarations ou les actions physiques portent atteinte à des individus en fonction de caractéristiques, notamment la race, l'affiliation religieuse, la nationalité, l'ethnicité, le sexe, l'orientation sexuelle, une maladie grave ou un handicap. Donc on rejoint quand même les définitions légales classiques aussi, hein. Bah, le problème, c'est que supprimer un profil, ça ne t'en supprime pas l'auteur. Et on constate donc 2 phénomènes. Une migration de ces profils vers d'autres plateformes qui sont moins regardantes sur les contenus et la création de réseaux alternatifs pour les sympathisants des mouvements. Alors là, vous voyez un très bon exemple. Le compte Twitter du mouvement identitaire n'a pas encore été supprimé, mais ils s'attendent à ce que ça finisse par leur tomber dessus. Donc, ils préparent le terrain. Ne laisse aucune chance à la censure. Reste en contact avec nous, inscris-toi à la lettre d'information, je rejoins le canal Telegram, abonne-toi à notre page VK. Et donc, il prépare la migration, sachant que Twitter risque d'être très bientôt aussi touché par cette vague de censure, comme il l'appelle. Que se passe-t-il ? Ils vont donc migrer sur VK. Alors, je ne sais pas si vous connaissez VK ou si certains ont des comptes VK. VK, c'est le petit frère de russe de Facebook. Voilà. Le compte a été fondé en 2006. Il compte aujourd'hui plus de 100 millions d'utilisateurs dans le monde. C'est le réseau le plus utilisé en Russie et un des plus utilisés au monde, après Facebook. En Allemagne, ce sont les jeunes qui l'utilisent essentiellement et qui l'utilisent énormément. Il est très répandu. Et il connaît depuis quelques années une croissance exponentielle. Quand je vous parle d'exponentielle, c'est que les bénéfices augmentent de plus de 40% chaque année. Il est directement sous contrôle actuellement de Vladimir Poutine et du FSB, le service fédéral de sécurité de la Fédération de Russie, qui contrôle les affaires de sécurité intérieure et qui s'en sert donc évidemment à des fins d'espionnage. Des opposants politiques essentiellement. Le dernier directeur, celui qui était à la tête de VK, a démissionné parce qu'il ne voulait pas justement collaborer avec le pouvoir. Et depuis quelques mois, ce réseau sert de refuge aux exclus du web traditionnel lorsqu'il y a des mesures de censure. On y trouve les suprémacistes blancs nord-américains, les négationnistes français comme Soral et Dieudonné, et aussi les identitaires et néo-nazis allemands. VK est vraiment présenté comme le refuge de la liberté d'expression face à la censure. Le compte Twitter, donc, du mouvement identitaire allemand, qui compte un peu plus de 20 000 abonnés, appelle à migrer vers des réseaux qui seraient un Eldorado de liberté d'expression. On trouve notamment la page donc, du parti néo-nazi Der Dritte Weg, la troisième voie, dont vous voyez que la symbolique rappelle très fortement le national-socialisme, le Troisième Reich, la troisième voie étant ni communisme ni capitalisme, national-socialisme, comme le chante, vous allez le voir plus tard, Path of Resistance. Donc, ceux qui savent qu'ils ne peuvent pas accéder à certains médias traditionnels ont quand même vraiment une audience à partir de ces réseaux alternatifs. Bon, 1100 fans, ça reste quand même très intime. Le Der Dritte Weg qui a 500 adhérents actuellement, donc c'est un micro-parti, c'est un groupuscule fondé en partie. Par contre, effectivement, de fait, j'ai un petit peu navigué sur VK pour les besoins de la cause. C'est le refuge des néo-nazis. Vous pouvez publier à peu près ce que vous voulez. Et notamment, donc ça, c'est un groupe qui est interdit en Allemagne, Combat Artsen, qui est un groupe extrêmement violent et ouvertement néo-nazi, qui a une page. Par contre, la page est fermée. Il faut demander à pouvoir rentrer. Voilà. Il faut montrer patte blanche. Mais on trouve très facilement ce genre de publications qui sont strictement interdites en Allemagne et dans d'autres pays, avec des croix gammées et des graphismes à la gloire d'Hitler et des appels au meurtre des Noirs, par exemple. On tombe dessus très facilement. La particularité donc de VK aussi, et c'est ce qui contribue à sa popularité, c'est qu'on peut très facilement diffuser de la musique et se faire une playlist. Donc ça, c'est une fonctionnalité qui existe beaucoup moins sur Facebook. Et partager la musique des amis. Donc là, il y a un réseau aussi musical qui se crée très facilement sur VK. Dernière chose, dans les réseaux sur mesure, ce sont les applications pour smartphone hein, qui se développent énormément. Donc ici, l'exemple avec Dadri TV, application pour smartphone, pour système Apple, Windows et Android. Hein, donc voilà, technologiquement, on a des standards qui s'imposent. Et puis, le mouvement identitaire hein, promet aussi son appli pour la fin décembre, en guise de cadeau de Noël à ses membres. Et donc, on apporte hein, des outils de connexion entre les sympathisants. Ce sont vus pour les développeurs comme un moyen de contourner la censure et surtout de renforcer les liens entre les membres. Donc là, il n'est pas question de propagande à l'extérieur, mais de consolidation du groupe et de connexion entre les membres. Connexion pour pouvoir ensuite se rencontrer dans la vraie vie et participer à des actions collectives dans la rue. Voilà, donc l'objectif, c'est aussi ensuite de pouvoir rassembler les gens, de les réunir physiquement au-delà de l'espace virtuel d'Internet. Dernier élément un petit peu plus long, je m'attarderai sur le rôle de la musique, parce que d'un point de vue aussi sociologique, elle a un rôle très important dans les groupes. Alors, comme porte d'entrée, point d'interrogation, parce que traditionnellement, on voit la musique est considérée, en allemand, on parle de Einstiegsdroge Nummer eins, c'est-à-dire de drogue douce qui vous fait rentrer dans la consommation. C'est une image à nuancer ou en tout cas à compléter. Alors, on peut distinguer trois approches dans le domaine musical. La stratégie de la censure, la stratégie de l'initié et puis la stratégie de la diversification. Alors, en Allemagne, on a parlé un petit peu des niveaux de répression. Il y a des choses qui sont interdites et puis d'autres qui sont autorisées. Et il y a deux niveaux de répression pour ces manifestations d'idéologie néo-nazie. Il y a le niveau pénal, avec des peines allant jusqu'à 3 ans de prison et des amendes. Donc là, c'est quand c'est vraiment vous diffusez des contenus qui tombent sous le coup de la loi, qui sont interdits. Il y a un autre niveau qui est celui de la censure. Qui est celui de la censure du service fédéral de contrôle des médias constituant un danger pour la jeunesse. Donc il y a un service qui est chargé de contrôler le caractère dangereux ou non pour la jeunesse des médias. Ça correspond un petit peu à ce qu'on a aussi, nous, avec, j'ai oublié l'acronyme, avec le CSA qui établit aussi un des degrés de diffusion. Donc là, ce qui se passe, c'est que, dans le cas de la musique, lorsque des paroles peuvent paraître dangereuses pour la jeunesse, eh bien, le support CD, il est interdit de faire de la publicité, et il est interdit, il y a des restrictions de vente, il y a des restrictions de commercialisation. Mais il n'est pas totalement interdit et il n'est pas confisqué. Donc c'est un niveau un peu particulier, intermédiaire. Alors face à cette situation, il y a une première stratégie qui est celle de la provocation. On produit des paroles ouvertement haineuses qui tombent automatiquement sous le coup de la loi, soit par les poursuites de droit pénal, soit par la censure. Et là, on joue sur le succès de scandale et l'aura que confère la mise à l'index des albums, voire une condamnation des musiciens. C'est le cas du groupe Lanzer, qui est un véritable mythe hein, dans le milieu de l'extrême droite et dont les membres ont été condamnés. Ils ont été arrêtés, ils ont été condamnés pour association criminelle, etc. Donc là, eux, ce sont vraiment devenus des saints, hein, des martyrs de la cause. Et en règle générale, c'est un groupe qui a vécu très longtemps, qui continue à vivre sous une autre forme, et qui est dont tous les membres du milieu connaissent par cœur les chansons, qui est un véritable. Il y a plus de 100 000 exemplaires hein, de CD qui circulent, on estime, hein, de leurs CD qui circulent en Allemagne. Les groupes se présentent donc comme des purs qui ne mâchent pas leurs mots, qui refusent le système et les compromis, et donc qui deviennent des martyrs de la cause. Alors, cette stratégie-là, elle est aujourd'hui en net recul. Mais ces productions continuent à circuler en interne hein, de façon très, très facile. Deuxième stratégie qui est la plus répandue depuis 2000, c'est la stratégie de l'initié. Valérie a déjà évoqué les codes. Et ben c'est pareil, on va parler par code, on va parler par allusion. Tout le monde va comprendre de quoi il s'agit, mais on ne peut pas tomber sous le coup de la loi. Souvent maintenant, les groupes d'ailleurs font vérifier leurs textes par des juristes avant de les commercialiser avant de les publier, donc pour être sûr que ça rentre dans le cadre. Donc, on va voiler le message. Alors, pourquoi depuis 2000? C'est parce qu'en 2000, l'organisation Blood and Honor, qui était l'organisation fondée par Ian Stuart Donaldson, un Britannique, en 87, et qui a fédéré la musique d'extrême droite en Europe, hein, à l'échelle européenne, avec des organisations nationales dans différents pays, dont une division pour l'Allemagne. Donc, Blood and Honor a été interdit en 2000 en Allemagne. Donc là, à partir de ce moment-là, il y a eu commencé à avoir vraiment des coups de filet dans le milieu, etc. Donc, on est passé à la stratégie du on va faire vérifier ça par les juristes d'abord, et puis on voile le message. Donc, tout un système de référence et de sous-entendu. À quoi ça sert? Ça donne le sentiment, ceux qui comprennent, les initiés ont le sentiment d'appartenir à une communauté, ceux qui savent, ceux qui ne sont pas dupes. Et d'autre part, on propage une idéologie diffuse, nourrie d'anticommunisme, d'antisémitisme, de discours antisystème et xénophobe, de négationnisme et de suprémacisme blanc, bref, rien de nouveau sous le soleil, ça s'appelle du national-socialisme. Ces textes sont quand même souvent mis à l'index, dès que leur potentiel de danger pour la jeunesse peut être clairement prouvé. Mais beaucoup restent diffusables, et puis la censure ne frappe que les supports matériels. Donc, sur Internet, tout passe, tout se diffuse, et ça n'est pas concerné par les mesures de mise à l'index. Alors, on joue sur les suggestions. Exemple, une rime avec le mot « juif » qui est évidente, mais on ne la chante pas. Mais dans la tête, tout le monde la pense très fort. On dénonce un complot mondial du gouvernement de l'ombre, en parlant des banquiers kabbalistiques en coulisses, de la main invisible, des fous de la montagne de Sion. Tout le monde a compris de qui il s'agissait. Mot codé aussi, l'aîné, pour les juifs. Vous allez retrouver également des slogans ou des expressions qui sont liées au national-socialisme. « Allemand, défendez-vous ». Ça, c'est l'appel au boycott des magasins juifs en 1933. Ou « Europe, réveille-toi ». Ça reprend le slogan nazi « Allemagne, réveille-toi », qui, lui, est interdit en Allemagne, comme le Heil Hitler. Par contre, si on dit « Europe, réveille-toi », pas de problème. Mais tout le monde a compris. Avec une symbolique et un cryptage des messages également, quasiment systématique. On va parler de 100% pour purement arien, évidemment. Donc après, tous les chiffres dont on vous a parlé, le 88, il y a même par exemple un club 88. On ne va pas supprimer 88 de la série des nombres utilisables. Donc ça ne tombe pas sous le coup de la loi. Ils accompagnent aussi toute cette symbolique, le choix des noms de groupes et des titres d'albums. Alors là, pour les germanophones, c'est un festival. Donc, en gros, tout a un rapport avec soit la guerre, l'agression ou les valeurs et la mythologie nordique. Lanza, Faustkraft, Spreegeschwader, Panzerdivision, Stahlgewitter, Rache, Akt, Nordwind, Sleipnir, Neue Werte, etc. Ce qui nous donne donc des choses du genre escadron de la près, droit du plus fort, division blindée, tempête d'acier, etc., etc., vent du nord, j'en passe et des meilleurs. Il y en a des centaines, je ne vais pas tous les citer, mais c'est tous la même chose. Alors, là, ça correspond, je suis un petit peu en avance sur... non. Voilà, donc quand je vous parlais d'idéologie qui était diffusée par Lanzer et par ses confrères, un exemple ici d'un album de 2000, Run and then Find, Sus à l'ennemi, avec une agressivité revendiquée sur la couverture de l'album et le point qui vient frapper les immigrés, les étrangers, les punks, les juifs, les communistes, les homosexuels et les féministes. Avec toute la scala de l'ennemi et des multiples visages de l'ennemi. Voilà, le fantasme de la castagne avec les antifas qui se manifeste assez régulièrement. Et puis l'idée, le socialisme ou la mort, donc il y a toujours un enjeu vital, évidemment, et puis on reprend toute une iconographie qui suggère aussi l'alliance de l'ouvrier et du paysan. Ça, c'est pour Faustrecht, droit du plus fort. Et également ici, donc là, pour Absurd, tribunal de sang. Donc, la glorification de la violence et de la guerre, y compris dans toutes ces variantes historiques, avec, pour certains groupes de métal, une prédilection pour le Moyen-Âge héroïque qui est très marquée. Donc stratégie de diversification, ça c'est la nouveauté. C'est-à-dire que on a souvent l'idée, l'image en allemand, il y a le terme de Rechtsrock, c'est le rock de droite, le rock d'extrême droite. Donc souvent c'est dit c'est du métal, c'est du gros son qui tâche. Eh bien oui, certes. Très mélodique. Alors, ce que vous pourrez remarquer quand même ici, au départ, s'il veut bien me remettre là, voilà, c'est que le signe ici est légèrement interrompu et que là, on retrouve une croix gammée qui normalement est interdite, hein, y compris sous cette représentation. Et là, le marteau de Thor aussi, qui est un signe de ralliement en référence à la mythologie germanique. Donc, ça, c'est du black metal classique. Alors, vous voyez que tout ça est accessible sur Facebook, sur YouTube. Relativement classique aussi, pas de grande surprise. Donc là, ils font aussi des balades, hein, c'est plus doux parfois. Ah oui, ce sont de grands sentimentaux, comme ça disait. Plus étonnant, Neue Werte. Alors eux, ils existent depuis très très longtemps, ils ont été dissous il n'y a pas longtemps, 62 250 vues, ça fait... Ils ont produit pendant 23 ans. Ils n'ont pas l'air de ce qu'ils aident, hein. C'est pas des bisounours non plus, mais par rapport à d'autres groupes de rock, il y a absolument aucune différence dans l'apparence de musique. Et au niveau du son, on est dans du mainstream, hein. Ça va pas vous agresser les oreilles longtemps. Et en plus, ils sont meilleurs que les autres. Ils ont plus longtemps aussi parce que musicalement, ils sont au-dessus. Voilà, et donc il est question de la vérité que l'on vous cache, évidemment, ça. Je ne résiste pas au plaisir de vous montrer Frank Rennicke. Si, il faut. Eh oui, parce que là, on n'est pas du tout, du tout. Voilà, donc là, Frank Rennicke, il a l'air beaucoup plus inoffensif, comme ça. Sauf que, voilà, c'est ce que je vous montrais, son logo, c'est celui-ci. Tout de suite, c'est beaucoup moins inoffensif. C'est la guitare, hein, croisée avec l'épée. C'est-à-dire qu'il considère, hein, sa guitare comme une arme. Le message est très clair. On le souligne, on l'appelle le barde, hein, de l'extrême droite. Ça fait très très longtemps qu'il tourne. C'est une vraie légende aussi dans le milieu. Et il est très très connu et très apprécié.
Et il s'était présenté à la présidence de la République il y a longtemps, mais sans grand succès.
Donc là, attention pour les oreilles sensibles. On est dans le national-socialiste hardcore. Je vous mets au défi de reconnaître le moindre mot des paroles. Pourtant, elles sont là, elles sont importantes. Mais elles sont complètement noyées dans le bruit. Dernier exemple. Pierre, c'est Weihnachtsspezial, j'adore.
Es ist Weihnachtszeit, Freunde, keine Zeit für Einsamkeit. Kommt zusammen und feiert, seid heute heiter, haltet einander die Hand des anderen. Dieses Jahr war für uns ein voller Erfolg und Niederlage für die Feinde der Freiheit. Für die Freunde der Überfremdung betrifft mit das schönen Kulturzentrum. Schäumen über wie Nöttinger, Hefeweizen. Manche Deutsche können sich nicht mal mehr Ferien.
Il y a 3 minutes comme ça. Hein. Alors, ce que j'appelle la stratégie de la diversification, et ça c'est aussi donc voilà depuis les années 2000, c'est qu'il n'y a plus un style de musique. Qui est le Rechtsrock, c'est qu'il y a tous les styles de musique, toutes les tendances, quelle que soit la musique que vous appréciez, vous trouvez celle qui correspond à votre orientation idéologique. y compris du rap, ce qui au départ idéologiquement n'était pas gagné du tout. Voilà, pour terminer sur des éléments importants sur le rôle, voilà, musique et recrutement. Voilà. Pourquoi cette diversification ? Finalement, on pourrait se dire vous aimez du rap, vous allez écouter, si vous êtes un peu sensible au thème nationaliste, vous allez écouter du rap nationaliste. Et comme ça, vous allez être emporté, on va vous sensibiliser à ces thèmes. Ça, c'est l'idée, en fait, que portent les musiciens eux-mêmes et les responsables. L'idée directrice, c'est celle donc de Ian Stuart Donaldson, qui était leader du groupe Screwdriver et qui a fondé en 87 Blood and Honor. La musique, c'est le moyen idéal de rapprocher les jeunes du national-socialisme, et on peut ainsi transporter l'idéologie bien mieux que lors de rassemblements politiques. Donc, la musique a donc une fonction de prise de contact et de diffusion de l'idéologie auprès d'un public qui n'est pas encore convaincu, une fonction de propagande active. Les responsables actuels du NPD, les musiciens de ces groupes, tous partagent cette même conception et agissent en conséquence. Le groupe DST, Deutsche Stolze Treue, allemand Fierté Fidélité, dit « La musique nous lie aux jeunes bien plus solidement que d'autres activités. La musique est le lien entre nous et ceux qu'il faut convaincre. » Le « nous » étant l'ensemble du groupe d'extrême droite et pas juste le groupe. Alors, selon cette logique, il y a eu les fameux CD de cours d'école. Il y a eu, en 2004 et pendant plusieurs années aussi, production de CD de musique qui étaient destinés à être distribués gratuitement aux abords des écoles et autres institutions fréquentées par la jeunesse et utilisées donc par le NPD dans le cadre des périodes électorales. Mais en fait, la musique seule ne suffit pas. C'est pas parce que vous écoutez cette musique-là, parfois vous comprenez même pas les paroles, que vous allez adhérer à l'idéologie. Et puis certains ne l'écoutent que d'une oreille distraite en toile de fond. Et il n'y a pas donc, je tiens à le souligner, d'auto-radicalisation d'extrême droite en écoutant de la musique, tout comme il n'y a pas d'auto-radicalisation djihadiste devant son ordinateur. Il faut un contact personnel qui l'accompagne, et c'est pourquoi les concerts et les événements festifs jouent un rôle essentiel. Alors les concerts sont organisés en général de façon plus ou moins clandestine. On parle de conspiratif en allemand. Bien le terme, veut dire, voilà, c'est une conspiration, tout est secret, on ne connaît que la date et à peu près la région, mais vous ne savez qu'au dernier moment exactement à quel endroit vous devrez retrouver des personnes, à tel endroit, qui vous amèneront à un autre endroit. Ensuite, vous devez passer une sécurité très importante pour éviter les vidéos, les micros et les caméras. Donc il y a évidemment l'attrait de l'interdit, de la provocation, toute une ambiance de conspiration qui font des concerts une véritable aventure, une expérience vécue en groupe, particulièrement séduisante pour les jeunes et qui soude les participants. Et puis sur place, vous nouez des contacts avec ceux que vous ne connaissez que par Internet ou que vous ne connaissez pas encore. Vous nouez des contacts internationaux aussi parce que souvent les concerts sont organisés dans des pays limitrophes où c'est plus facile à organiser qu'en Allemagne. Donc il y a beaucoup de concerts en Pologne, en Belgique, en République tchèque, en Suisse. Il y a beaucoup de festivals, un peu des manifestations hybrides. Par exemple, le festival InBV Gonk du NPD, c'est une sorte de fête de l'UMA version extrême droite, où vous avez de la programmation musicale, des discours politiques, des stands divers. Alors ça va de la littérature politique aux vêtements et bijoux, en passant par les stands d'information, des associations, des activités pour les enfants avec des châteaux gonflables, etc. Et des animations diverses et variées pour attirer un public le plus large possible. Alors ça a plusieurs avantages. Quand vous êtes sous l'autorité, quand c'est un parti politique qui organise, eh bien, on ne peut pas vous interdire. Vous pouvez beaucoup plus facilement organiser les choses. Et puis, pour le parti, ça assure un large public qui vient pour écouter de la musique et pas forcément pour le discours idéologique qui l'accompagne. Et donc ça va avec le festival Europa Nostra aussi, qu'avait organisé le mouvement identitaire. Il y a beaucoup de ces mouvements, de ces festivals comme ça, qui se multiplient et qui lient divers éléments. Alors donc voilà, la musique, super, par la musique, on accroche les jeunes, on les fait venir et tout. Il ne faut pas prendre pour argent comptant ce que disent les acteurs. Eux, c'est ce qu'ils voudraient bien faire croire. Et ce n'est pas parce qu'ils le disent que c'est un fait avéré. Peut-être que c'est aussi de l'intox. Donc, j'ai un petit peu fouillé, j'ai trouvé une très belle étude sociologique sur le rapport entre les groupes skin et la musique, et il se trouve que les rapports sont quand même un petit peu plus complexes. Certes, beaucoup de témoignages de repentis de ces mouvements racontent leur glissement vers l'extrême droite et évoquent le rôle joué par la musique dans le processus. Mais il y a aussi des études qui confirment ça. En fait, la musique, elle est centrale dans les trois phases. La phase de rapprochement, où on établit les affinités, la phase de consolidation et la phase de radicalisation. Alors, pour reprendre la métaphore allemande, la musique, ça n'est pas qu'une drogue douce, c'est aussi une drogue dure. C'est surtout ça qui est important. C'est qu'on ne tombe pas dessus par hasard, pas plus qu'elle ne vous tombe dessus de façon inattendue. L'écoute, elle est délibérée. Elle est délibérée dès le premier contact. Le premier contact, il se fait en général par les frères et sœurs un peu plus âgés, par des camarades de classe, ou même par des gens qu'on rencontre à l'arrêt de bus et qui vous proposent des choses, allez, viens écouter avec nous, viens boire un coup, etc. Et dans cette phase de rapprochement, qu'est-ce qui se passe? On va écouter cette musique qu'on nous a proposée. C'est pas qu'on est tombé dessus par hasard sur Internet. Il y a eu quelqu'un qui est venu nous la transmettre. Mais du coup, elle résonne parce qu'elle donne du sens aux expériences vécues par les jeunes. Elle oriente leur interprétation de la réalité, leur fournit un cadre idéologique. Voilà. Souvent, on ne l'écoute pas de façon isolée non plus. On l'écoute en groupe, avec les autres. Et là, ça crée déjà un espace social. C'est une façon de se distinguer, de s'intégrer à un groupe. C'est donc pas une expérience esthétique, c'est une expérience d'emblée qui est sociale. Et assister à des concerts en constitue le point d'orgue. Dans la deuxième phase, la consolidation, la consommation de musique augmente de façon notable. Et alors là, on écoute de la musique du matin au soir, en permanence, au petit déjeuner, dans la voiture, quelles que soient les activités. Là, c'est la toile de fond permanente, avec une diversification des styles, puisque maintenant on a un très large choix. Et la musique, elle est évaluée à son degré de radicalité. Ce qui compte, c'est le message qui renforce les convictions. Voilà. Et il contribue aussi à stabiliser le sentiment d'appartenance au groupe et devient expression d'une identité, expression de soi, et pas du tout propagande par rapport aux autres. C'est juste, je sais ce que je suis. Et je m'auto-renforce, ou en tout cas, je renforce la cohésion du groupe et de mes propres convictions. La fréquentation des concerts augmente aussi, avec le degré d'intégration au milieu. Et puis on conçoit la musique aussi comme un moyen d'information alternatif. C'est celui qui permet la réinformation, comme disent les milieux d'extrême droite, hein, qui permettent d'accéder à l'autre vérité, celle que les médias vous cachent. Et enfin, dans la phase de radicalisation, la musique est toujours aussi présente, mais elle est complétée par des livres, des films, des vidéos, etc. Et donc en fait, ce qui est important aussi, c'est que parmi toute l'offre médiatique, c'est la musique qui joue un rôle central beaucoup plus qu'Internet. Alors, les choses ont peut-être évolué depuis, parce que là, l'étude, elle a quand même quelques années, mais même Internet était quand même déjà très développé à l'époque. Mais elle joue quand même vraiment un rôle d'expérience vécue centrale. Et lorsqu'il y a distanciation et rupture avec le milieu, l'un des signes les plus nets, c'est la diminution la consommation de musique d'extrême droite, voire la rupture radicale rapide. Et dernier élément, le Rechtsrock, la musique d'extrême droite, c'est la bande-son de la haine parce qu'elle favorise le passage à l'acte. Là, il y a plusieurs cas qui le mentionnent. En même temps, ils en écoutent tout le temps. Donc, c'est pas étonnant que lorsqu'ils passent à l'acte, ils en aient écouté peu de temps avant. Mais il y a de nombreuses agressions qui ont débouché pour certaines par des décès qui se sont faites au son. De ces musiques, notamment de Lanzar, diffusées par la voiture qui poursuivait des groupes de migrants, ou bien hurlées par les gens qui attaquaient, etc. Donc il y a un rôle fondamental, galvanisateur de la musique qui facilite le passage à l'acte, parce qu'on n'a qu'une envie, c'est d'aller, comme disait un des criminels qui d'un groupe qui a assassiné un sans-abri à Berlin à 2000, ils avaient envie de se faire un cassos. Donc, ce passage à l'acte, la musique n'est pas du tout a aussi un impact sur le comportement de façon très directe. Voilà pour le panorama, excusez-nous, ça a été un petit peu long. Juste alors, qu'est-ce que ça a à voir tout ça avec la propagande, avec ce qu'on peut dire d'une définition de la propagande ou de quelques moyens de caractérisation rapidement. On peut définir la propagande par différents éléments. Son objectif, c'est de produire chez le récepteur un comportement, qui soit actif ou passif, qui serve les intérêts du propagandiste. pour acquérir ou conserver un pouvoir. Toujours question de pouvoir derrière. C'est ça qui la distingue aussi de la publicité, entre autres. Condition minimale, il faut une cause ou des idées en lesquelles on croit et que l'on veut partager. On a ça. Un pouvoir politique à conserver ou à conquérir, c'est le cas ici. Des spécialistes de la persuasion, c'est le cas aussi. On a des gens qui travaillent au message. Et des moyens matériels de diffusion, ils sont très larges et on les diversifie le plus possible. Alors pour moi, la propagande d'extrême droite actuellement, celle qu'on a balayée aujourd'hui, elle répond à toutes les caractéristiques, à l'intentionnalité, l'organisation, la radicalité, la conflictualité et la dissimulation ou légitimation, c'est-à-dire qu'on se présente comme une forme d'information salutaire, mais on ne dissimule pas ses objectifs. Ça dépend ici, l'objectif il est très clair, il n'est pas dissimulé, parfois ça l'est plus. Les moyens, appel aux émotions, stéréotypes, simplification, accentuation, appropriation et instrumentalisation de l'information. La propagande, ça n'est pas la désinformation. On utilise des faits, parfois. Parfois, on les présente de façon particulière pour répondre à notre interprétation du réel, mais ce n'est pas nécessairement du mensonge ou de la manipulation par le trucage. Et puis ici, les permanences et les mutations. Alors les permanences, on en a vu, c'est toujours les mêmes thèmes, les mêmes ennemis, les étrangers, les juifs, les capitalistes, le gouvernement, le système, les antifas qui ont remplacé les communistes, et puis l'utilisation des potentialités des nouvelles technologies. Ça, le Troisième Reich avait déjà fait ça très bien, donc pas non plus de nouveauté dans le rapport à la technique. Ce qui change, ce sont les adaptations au contexte législatif. Donc on réagit en fonction des contextes législatifs des différents pays aussi. On sait utiliser les autorisations ou les interdictions. L'adaptation au contexte culturel avec la récupération des thèmes du glyphosate, des thèmes de MeToo et balance ton porc. On en profite pour réinterpréter les choses en fonction de notre idéologie, adoption de nouveaux codes pour élargir le recrutement avec une approche un peu moins frontale, ça c'est la diversification dans le cadre de la musique. Et puis donc voilà, ces nouveaux thèmes que l'on s'approprie pour essayer de s'infiltrer au cœur de la société.